Qu'y a-t-il ?
Je viens de détecter une déficience de l'antenne radar.
Veuillez vous présenter à l'identification vocale.
Je veux que vous me parliez. Je voudrais vous entendre.
Est-ce excessif ?
S'il vous plaît, répondez-moi.
Cinérama.
Bonjour.
C'est bien. Encore une fois, bien articulé.
Cinérama.
Parlez normalement et détachez bien chaque réponse.
De quoi s'agit-il ?
Question intéressante.
Actualité cinéma.
Ah, un petit mot encore.
Et tout le reste.
En fait, nous avons tous les renseignements utiles. Oui, merci.
Juste un petit détail afin de mettre mon dossier à jour.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui ?
Eh bien, oui, je crois que oui.
Oui. Non. Oui, on...
Bonjour et bienvenue, c'est Cinérama avec aujourd'hui eh bien, des films qui sont sortis soit le 26 octobre, soit le 1er novembre ou soit bien avant. Bonjour Marine, bonjour Manu.
Bonjour à tous.
Alors Marine, tu n'as qu'un film aujourd'hui.
Eh oui, et un film plutôt pas mal puisqu'il s'agit de La fille du train de Tate Taylor.
Et toi Manu, deux films.
Deux films, donc La Palme d'Or, hein, moi Daniel Black de Ken Loach, et puis Brice 3 hein, de James Huck.
Tu me dis avec une certaine déception. Mais en tout cas, la chronique sur le Ken Loach nous donnera l'occasion de jouer à un blind test. Hein, on vous fera écouter 5 extraits issus de la filmographie de Ken Loach, et eh bien, vous devrez deviner les titres de ces films. Et quant à moi, eh bien, je vous parlerai, si on a le temps, de Doctor Strange, parce que bon, c'est un film des grands studios, donc ça va, on peut le laisser de côté. Et puis surtout de Ma vie de courgette et de Apnée, qui est sorti déjà il y a 15 jours.
Je ne me souviens pas du nom.
Cinérama.
Si vous voulez appeler ça comme ça.
Voilà encore une comédie traversée par une veine libertaire et fantaisiste. Après La fille du 14 juillet ou La loi de la jungle d'Antonin Peradjako, eh bien deux films mêlant critique politique, humour et fantasy. Voici Apnée de Jean-Christophe Meurice, un réalisateur qui a longtemps fait du théâtre et qui a décidé de prendre une caméra pour mettre en scène des personnages dans la continuité. Comme dans les films de Peradjako, Meurice fait appel à des acteurs atypiques, un barbu, une petite blonde peroxydée et un type qui semble sorti tout droit des années 70. Céline Führer, Thomas Simeka et Maxence Tual, ces trois personnages vivent dans notre monde mais ne peuvent s'empêcher de se mettre à distance ou de le bousculer. Les trois personnages veulent se marier, une maison, un travail, des enfants sages et manger tous les jours des huîtres. Mais leur premier projet est de se marier à trois, de créer ce qu'ils appellent un trouple.
C'est pour un mariage.
D'accord.
C'est vous ?
Non, c'est nous trois.
Tous les trois.
Hein ? On s'aime, on veut se marier.
Bah voilà, c'est pas compliqué.
Je comprends. On peut se marier à deux. On peut se marier à deux de sexes différents, à deux du même sexe. Mais à trois, pas encore.
Alors évidemment, la vieille société française a admis l'union pour tous, mais pas sous toutes ses formes. Aussi, le trio amoureux va partir sur les routes en quête d'une union, de leur union. Une traversée qui va leur permettre de croiser de nombreux personnages, certains fantasques, mais d'autres aussi connus et identifiables qu'un banquier ou qu'un formateur missionné par le Pôle emploi, ce qui nous donne l'une des séquences les plus hilarantes d'Apnée. Alors, autre personnage très identifiable, eh bien, par exemple, un enfant dans une cour d'école.
Comment tu t'appelles ?
Avril.
C'est original ?
C'est original, mais c'est pas très joli. Tu voudrais pas changer de prénom ?
Si t'as deux parents PD, ça te gêne pas ?
Non.
Comme ça, c'est les nouvelles générations.
Incroyable. T'es une progressiste.
On l'entend, le ton est décalé et quelles que soient les situations, rien n'est jamais sérieux dans Apnée. Pourtant, rien n'est vraiment éloigné de nos préoccupations. Alors autant nos trois personnages peuvent être en face d'un banquier, d'un policier ou d'un agent immobilier, eh bien jamais le discours ne va être convenu et très vite le spectateur va se familiariser avec cet univers absurde. Il s'agit de questionner la société. Alors il y a la famille, l'autorité, l'argent, la religion, le travail, l'accès au logement et n'oublions pas la sexualité et l'amour libre. Tout ça à la fois sous forme de séquences qui rythment ce film bien tassé en moins d'1h30. L'apnée est courte donc. Hein. Ceux qui ont apprécié le burlesque libertaire de La fille du 14 juillet ou de La loi de la jungle, eh bien, peuvent foncer voir Apnée. Ils y trouveront un air familier. Toutefois, Apnée est peut-être plus absurde que burlesque, plus démonstratif aussi, plus bavard, quoique moins écrit. De nombreuses séquences sont issues en fait d'un travail d'improvisation. Le film s'amuse avec le spectateur en bouleversant les séquences. On peut commencer dans un registre où la rationalité est de mise et puis d'un coup, on bascule dans la fantaisie et l'imaginaire. Comme dans cette scène où les trois personnages eh bien, sont en quête de parents et s'invitent chez des retraités un dimanche après-midi.
Dites-moi, vous voulez de l'argent quoi ? Qu'est-ce que vous voulez ?
On veut une famille.
Une famille comme vous.
Vous tournez chez vos parents ? Tu parles pas à ta mère comme ça, hein ?
Ça va.
Ça va ? C'est moi qui dis ça va !
Ça va ?
Non, je t'ai dit que ça n'allait pas !
Alors voilà, ils arrivent dans cette famille et puis au bout d'un moment, cette famille se prend au jeu, enfin le couple se prend au jeu et considère que ce sont vraiment leurs enfants qui sont devant eux. Alors au passage, on entend Monsieur Saladin des chiens qui n'a pas son pareil donc pour piquer une colère. Alors c'est le seul comédien que j'ai pu reconnaître avec Claire Nadeau qui joue sa femme dans cette séquence. Donc Voilà, pour résumer, Apnée est assurément une comédie étrange, inventive et drôle. Et on va se permettre eh bien, d'écouter des musiques qui sont issues de ce film un peu à la marge. Look at my king of yesterday, Ico, Ico, one day. I bet you $5 he'll kill you day. Drag a move, he not me. Talking about him now, him now, him now, him now. Ico, Ico, one day. Drag a move, he no, I'm not me. Drag a move, he not me. Madame condamnée à l'eau, tu vois des rosseaux. Y'a les perroquets, petits pois, tu les cocos. War is coming and we're stuck. Here with a minute pains, where the literature's a bigger picture, says we belong all together. Jane Added, on a entendu Aiko Aiko, et puis la Compagnie Créole, voilà, c'est un exemple eh bien, de musique que vous pouvez entendre dans ce film qui est toujours dans les salles.
Et maintenant,
Cinérama,
tout est parfaitement en ordre.
Moi, Daniel Blake, hein, ce 25e long métrage de fiction de l'infatigable Ken Loach, hein, 80 printemps au compteur, signe pour moi les retrouvailles d'un cinéaste que j'avais perdu de vue depuis 2002, depuis The Navigator, alors que j'avais vu tous les précédents. Enfin, une certaine lassitude m'avait envahi, malgré tout le respect que m'inspire le bonhomme et la qualité indéniable de ses films, hein, notamment ses trois premiers, les meilleurs à mon avis. Hein, je veux parler de Pas de larmes pour Joy, Kess et Family Life. La critique aussi m'a un peu dissuadé pendant longtemps de me replonger dans l'univers de l'anglais. Idem pour son public conquis d'avance, hein, avançant donc des arguments prompts souvent à me faire fuir. Mais c'est avec curiosité que je suis allé voir moi Daniel Blake. Alors entendons-nous bien, le film ne méritait pas une palme d'or à mon avis, le cru étant excellent entre Elle, Aquarius, Neon Demon ou encore Tony Erdmann. Mais Ken Loach est un metteur en scène à l'ancienne, il filme à hauteur d'homme de manière efficace et humble, mais sans génie. En tout cas, le récit a conquis le jury. Une histoire simple au fond, hein, pour ne pas dire simpliste et manichéenne. Daniel Blake est un menuisier de 59 ans, victime de problèmes cardiaques l'empêchant de travailler. Il est contraint de recourir aux aides sociales via une administration kafkaïenne ne lui facilitant pas la tâche. Alors, au contraire, pour toucher ses indemnités, il doit prouver qu'il cherche un boulot alors même qu'il ne peut plus techniquement travailler. Bref, un vrai sac de nœuds, d'autant qu'il doit se confronter à une technologie qu'il ne maîtrise absolument pas, en l'occurrence les ordinateurs. Alors ce qui nous vaut d'ailleurs les scènes les plus pertinentes et drôles du film. Il se demande pour commencer comment on utilise la souris, la plaquant d'entrée contre l'écran d'ordinateur. Ah. Alors il galère ensuite pendant des heures pour remplir un formulaire qu'il n'achèvera jamais, en dépit de toute sa bonne volonté. Alors ces scènes sont très bien vues, sont à la fois désopilantes et déprimantes. Par contre, le petit péché mignon du réalisateur de Raining Stone, hein, revient sans cesse. Il ne peut s'empêcher de décrire le personnel administratif comme des gens imbuvables, dénués d'humanité et de compréhension. Le cinéaste nuance rarement son propos, ou alors très timidement, et en face des pauvres, dignes et solidaires entre eux, ce qui à mon avis actuellement est un peu une erreur politique. Hein. Ken Loach est un peu à mon avis à côté de la plaque politiquement, assénant même un discours vaguement populiste. Alors il est par contre beaucoup plus doué pour dresser le portrait d'un homme fatigué, hein, complètement dépassé par son époque. Ken Loach se reconnaît volontiers dans le personnage de Daniel Blake, émouvant, qui va nouer donc une relation touchante avec une jeune femme en rupture sociale. Et il réussit quelques séquences bouleversantes. Alors grâce en partie au jeu tout en retenue et sensibilité de son acteur principal, hein, comique télé de Dave Jones, que je ne connaissais pas, apparemment très populaire en Angleterre. Alors en dépit des clichés assommants et d'un récit édifiant jusqu'à l'épilogue prévisible, moi Daniel Black finit quand même par être attachant par son idéologie anti-moderne et anti-libérale. Ken Loach semble nous dire aussi qu'il se sent dépassé en tant que porte-parole d'un cinéma engagé, qu'il est aussi à bout de souffle même s'il ne court pas les chines. Alors cette œuvre un peu vieillotte émeut par sa place anachronique dans le cinéma contemporain et se retrouve à rebours de beaucoup de films sociaux actuels défendant souvent les institutions en place. Alors Loach n'y croit plus trop. Dans un sens, c'est tout à son honneur, hein, nous lui souhaitons une bonne retraite et de profiter de la vie. Ce n'est peut-être pas nécessaire, en revanche, qu'il continue à faire du cinéma, hein, en espérant malgré tout qu'il trouve quelques descendants capables de réaliser des films de la trempe de Riff Raff ou des premiers films que j'ai cités en début de chronique. Voilà, donc un film estimable, mais je trouve qu'il n'y a rien de sensationnel.
Un autre Ken Loach. Comme on va jouer au blind test, on va écouter cinq films issus de sa filmographie. On va peut-être se rendre compte effectivement qu'il y a souvent des parentés et que ça n'a pas été facile finalement de choisir des extraits. On écoute tout de même le premier. Jouez avec nous.
J'aurais pu travailler quelques jours par-ci, par-là. Mais maintenant, tout est râpé.
Écoute, il n'y a aucune loi qui dit qu'il lui faut une nouvelle robe.
Moi, je le dis.
Le père Barry ne dira rien.
Je me fous du père Barry.
Elle a sa robe de l'année dernière, elle sera très bien.
Oh, je vois, c'est super, elle sera comme une pauvre et les autres sont super sapés.
Elle sera pas comme une pauvre, n'exagère pas.
Écoute,
toi, t'en as une robe de communion.
Oui.
Eh bien, je t'assure que Colin en aura une aussi. Je sais pas le temps que ça va prendre ou ce que je vais faire. C'est dans combien de temps?
Dans 6 semaines.
Bien, elle aura sa robe.
Mais comment?
J'en sais encore rien.
Alors, ça a été trouvé, Manu.
C'est Raining Stone, qui est aussi l'un de ses meilleurs films, à mon avis. Hein.
Que tu n'as pas cité tout à l'heure, il me semble.
Si,
tu l'as cité.
Je l'ai
Bravo.
Cité.
Film de 93. Hein. Tous les films sont situés après les années 90. Deuxième extrait.
Le jour où j'ai vu McGowan au pub, il a dit à Liam de choisir. Solution numéro 1, il rembourse le fric. Problème, il n'a pas un rond. Solution numéro 2, il met Sabine sur le trottoir. Et c'est pas comme ça qu'elle arrêtera de se défoncer. Dernière solution, il lui casse les deux jambes. Et il aurait fallu que je le laisse faire. Je pouvais pas me défiler. J'étais là. McGowan m'a proposé un petit boulot pour payer les dettes de Liam.
Quel boulot?
Aller chercher une voiture. La semaine prochaine, je vais en chercher une autre, et basta. C'est fini.
Une dette de 2000 livres effacée, en convoyant simplement deux voitures.
Hein?
Il y avait quoi dans la voiture?
Dilemme, qui donc voilà, c'est quelqu'un qui se retrouve à faire quelque chose qu'il n'a pas envie de faire, mais voilà, il a exposé la situation. Ça pourrait l'empêcher de poursuivre son histoire d'amour, c'est...
My name is Joe.
Bravo, 1998, pour ce film. Un nouvel extrait.
Je pars en Espagne.
Comme ça, tu décides d'aller en Espagne?
Oui, ça fait longtemps que j'y pense. Je sais que ce sera pas facile, mais j'essaierai d'atteindre Barcelone et puis de là, j'aviserai.
Mais pourquoi toi? Pourquoi toi, Dave?
Parce que j'y crois. Et que je laisse rien derrière moi. C'est vrai, à quoi je sers? Je suis un pauvre mec qui touche des allocations. On est des milliers dans ce cas, sans travail. Je passe
mais enfin,
mon temps à manifester, à faire des marches contre la faim.
On est ensemble, je sais bien.
C'est pas assez. Je vais en faire plus, moi.
Alors fais-le ici.
Nous devons agir. Nous devons agir tout de suite. Parce que si nous refusons de nous battre aux côtés de nos frères, on n'a aucun avenir.
Et si je te perdais?
Alors ça a été trouvé et indice était facile, l'Espagne.
Bah, et donc c'est London Freedom.
Voilà. Film de 95, un nouvel extrait.
Angie.
Tu vas bien?
Super, mon cœur. Ah, t'es ravissante.
T'as pas changé, toi, c'est vrai.
Ça, tu peux le dire, putain.
Et alors, tu vas bien?
Ah, c'est un peu chiant.
Ah ouais?
Ouais, ces enfoirés de nouveaux Polacs, ils commencent à m'emmerder. C'est vrai, j'aimais bien mieux les ouvriers d'avant. Enfin, je veux dire, il n'y avait aucune plainte, et ils fermaient leur gueule et ils se contentaient de travailler. Là, ils ont leurs petits papiers, ils foutent rien et ils jouent au chef.
Écoute, Tony, t'inquiète pas, d'accord? On va t'arranger tout ça.
Ouais?
Oui, on te fera
super,
un bon prix.
C'est super. C'est pour ça que je t'ai appelé, chérie. Ouais.
Pas de problème. Tu me feras un chèque?
Ouais.
Ouais?
Ouais, je te fais un chèque.
Laisse-le en blanc.
Ouais, je suis d'accord. Ouais. T'apprends vite, toi, chérie. Okay.
Alors, ça n'a pas été trouvé, c'était en discussion. Marine,
bah non,
tu as une question.
C'est pas le film qui a eu la Palme d'Or?
Je sais pas s'il a eu la
Palme
d'Or.
Est-ce qu'il y avait Kiss dans le titre?
Non, mais je crois que c'est le film qui a eu la Palme d'Or.
Film de 2008 sur les travailleurs immigrés.
Non, parce que
le vent se lève.
Non,
mais non, c'est pas le vent se lève. Mais enfin, il parle d'immigration polonaise, mais Manu,
It's
n'importe quoi.
It's a free world.
Ah oui, voilà. Mais c'est ce que je disais, en fait.
Alors, nous t'adressons un demi-point pour cela. Dernier extrait, c'est encore facile. Gros indice.
Irwin est contre Spurs, c'est ça? Magnifique.
Je savais qu'il était malin, qu'il jouait des deux pieds. Ça a été un flash. J'ai frappé de l'extérieur du pied. Ça a surpris tout le monde. Il a réceptionné et mon cœur a bondi.
Un cadeau?
Oui, comme une offrande au grand dieu du football.
Et s'il l'avait loupé?
Il faut faire confiance à ses coéquipiers. Toujours. On n'est rien sans eux.
Ça a dû être super dur quand tu t'es fait suspendre. 9 mois, les salopards! Ce con avait eu ce qu'il méritait!
J'ai dû prendre sur moi, tu sais. Elle est vraiment louée. Il me fallait quelque chose pour remplir le vide et quand je me sentais seul. Un but, un truc qui m'aide à tenir.
C'est drôle, tu sais. On oublie quelquefois que tu n'es qu'un homme.
Je ne suis pas un homme. Je suis Cantona.
Eh oui, gros indice. Donc, ça a été trouvé, Manu.
Eh bien, c'est Looking for Eric. Voilà. J'allais oublier le titre, j'allais dire Looking for Richard, mais...
Non, film de 2009, ainsi s'achève ce blind test sur l'anglais Ken Loach. On passe à la fille du train.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
C'est un passe-temps surprenant.
Rachel n'est plus que l'ombre d'elle-même depuis que son mari l'a quittée il y a 2 ans. Elle s'est enfoncée encore plus dans l'alcoolisme qui les avait déjà séparés. Et dorénavant, bien qu'elle ait également perdu son travail, elle continue tous les jours à prendre le même train qui relie sa banlieue à Manhattan. Cette ligne de train se retrouve toujours en panne au même endroit, devant les pavillons où elle vivait auparavant lorsqu'elle était heureuse. Ainsi, chaque jour, elle regarde par la fenêtre de son train son ancienne maison où vivent à présent son ex-mari et sa nouvelle femme. Elle finit également par développer une curiosité morbide pour leurs voisins, Megan et Scott, un jeune couple qui lui rappelle le grand amour qu'elle a vécu. Et lorsque Megan disparaît, Rachel se sent investie d'une mission et mène l'enquête de son côté. Mais sa consommation d'alcool excessive brouille son jugement, l'empêche de différencier rêve et réalité, allant jusqu'à la faire douter de sa propre innocence.
Ton épouse m'a frappée vendredi dernier.
Non. Non, c'est n'importe quoi.
Si, c'est vrai. Oui, tu m'as frappé, dis-le. Et ensuite, elle est montée dans ta voiture.
Non. Elle dit que tu lui as hurlé dessus
non,
cette nuit-là.
Non, c'est pas ce qui s'est passé. Elle était dans le tunnel et elle m'a frappé. Non.
On arrête cette discussion. C'est même pas midi et tu es saoul.
Je ne suis pas saoul, Tom.
Ma femme a peur de toi.
Peur de quoi?
Non, mais est-ce que tu plaisantes, là? Parlons de l'enlèvement de mon enfant.
C'était pas un enlèvement.
On sait tous les deux de quoi tu es capable.
Alors, gros triomphe, hein, outre-Atlantique, La fille du train, à ne pas confondre avec La fille du RER de Téchiné, a connu un accueil critique plutôt mitigé en France, ce qui est sans doute dû en fait à la déception de ne pas trouver le thriller nerveux qu'on attend. En effet, le réalisateur Tate Taylor, qu'on avait connu avec le mélo La couleur des sentiments, adapte ce polar de Paula Hawkins façon thriller larmoyant. L'angoisse est plutôt diffuse. Et il s'agit davantage d'un portrait de femme au bord de la crise de nerfs que d'une enquête au suspense haletant. Le film peut sembler répétitif, un peu lent, mais on peut aussi percevoir cela comme un choix de mise en scène qui nous plonge en fait dans l'état de confusion extrême du personnage qui est donc sans cesse ivre et dont le jugement est brouillé. La fille du train est en fait une sorte de thriller alcoolique. Il y a même un meurtre au tire-bouchon, c'est pour dire. Un thriller en fait qui joue sur l'état second du personnage principal, sur ses trous noirs et ses pertes de mémoire. Alors, il y a aussi dans ce film, où les hommes n'ont pas le bon rôle, hein, une critique de la pression exercée par la société sur les femmes qui les obligent à être des épouses, des mères, de bonnes employées, ou tout cela en même temps, sans prendre en compte leur vrai désir, quitte à les faire sombrer dans le déni ou dans la folie. Alors, la réalisation n'est pas vraiment subtile, hein, évidemment, c'est américain et c'est commercial, alors il faut une voix off pour tout expliquer aux spectateurs, des ralentis pour signifier la peur ou la perte de repères, et de la musique pour bien appuyer toutes les scènes. Certains partis pris esthétiques sont franchement grossiers et d'autres en revanche sont bien inutiles, comme le fait de jouer sur différentes temporalités en faisant des allers-retours dans le passé, ce qui a plutôt tendance en fait à nous perdre qu'à faire évoluer l'histoire. En revanche, Emily Blunt, fraîchement auréolée du succès de Sicario, revient ici avec un rôle difficile, un rôle à Oscar, je pense, dans lequel elle est plus que crédible et qui aurait pourtant vite pu tomber dans le ridicule s'il avait été interprété par une autre. Et elle, c'est vraiment le gros atout du film, hein, qui est loin d'être parfait, mais qui n'est pas non plus raté. Voilà, La fille du train.
Sortie le 26 octobre et maintenant, nous allons parler d'un film qui est sorti une semaine avant, Ma vie de courgette de Claude Barras.
Vous avez vu un bon film aujourd'hui?
Cinérama.
Non, j'ai été plutôt déçu. Alors c'était sûrement une comédie.
Bon, ça te plairait de jouer dans un film?
Ah ouais, comme Shrek. Ouais, moi je sais pas péter, je sais tout rater.
Ah. Tu fais ça bien, dis donc, hein?
Bah, tout le monde se fout de ma gueule à l'école, alors... Sauf ça là, mais ça là, il rigole toujours pour tout.
Toi, par exemple, si on te demandait de jouer à un enfant qui a plus de parents?
Ben, depuis que mes parents sont divorcés, ils s'aiment plus, puis ils ont des problèmes comme ça, et puis... je sais pas. Des fois, je suis un petit peu triste à l'intérieur.
Ah ben, on a envie de la prendre dans ses bras. Le ton est donné par ce faux casting du film d'animation Ma vie de courgette, adaptation du roman Autobiographie d'une courgette de Gilles Paris, racontant la maltraitance et la plongée d'un enfant appelé Courgette, donc dans un orphelinat dépeuplé. Un sujet plutôt sérieux qui permet d'aborder des thèmes comme l'amour, l'amitié et la bienveillance. Alors ce qui surprend avec Ma vie de courgette est d'abord le ton, ce n'est ni un drame ni une comédie avec des proutes à la Shrek. Il s'agit d'un conte moderne qui navigue entre réalisme social, émotion, légèreté et humour. Courgette a 9 ans, il est ainsi appelé par sa mère et est emmené dans un orphelinat après la mort de celle-ci. Et alors que l'orphelinat pourrait être un lieu de brimade et de violence, il va s'avérer être l'endroit où Courgette va pouvoir se reconstruire au milieu des autres enfants.
Elle était gentille avec toi, ta maman?
Elle buvait beaucoup de bière. Mais elle faisait de la bonne purée.
Bon, il est où ton papa?
Là.
Je vais t'emmener dans un endroit avec d'autres enfants comme toi. Sans papa et sans maman.
Je vous présente votre nouveau camarade, Icar.
Il préfère qu'on l'appelle Courgette.
Moi, je dirais plutôt Patate, vu sa tête.
6 mois, ça suffit.
Je vais rentrer chez moi, avec ma maman.
C'est impossible, Courgette. Elle est partie, ta maman, elle est au ciel.
Hé lâche ça.
Oh, trop balèze, Courgette. On est tous pareils. Il n'y a plus personne pour nous aimer.
Non seulement ma vie de courgette est peuplée d'enfants, mais aussi d'adultes, hein, pas tous bienfaisants, mais un personnage se montre particulièrement bienveillant, et ce n'est pas le plus évident puisqu'il s'agit d'un flic. Alors d'une certaine manière, ma vie de courgette est à la marge sur plusieurs plans. Le cadre du récit est un orphelinat calme et rassurant. Si vous regardez le cinéma espagnol, par exemple, l'orphelinat est classiquement un endroit de terreur. Tu vas pas me...
Je veux pas te contredire.
C'est clair. Et dans sa forme, eh bien, il est réalisé en stop motion, soit image par image, une technique qui a nécessité autant de manipulations de décors que d'effets spéciaux légers. Les marionnettes sont plutôt sobres. Alors si Shrek est assurément vert, Courgette a les cheveux bleus. Tous les personnages ont de gros yeux et de longs nez et une voix singulière, tout en nuances, comme on vient de l'entendre. Le minimalisme des décors et l'abondance de plans séquences contribuent à restituer une atmosphère singulière où poésie, humour et émotion, eh bien, sont savamment mêlés. Alors si l'histoire est une adaptation d'un roman, le scénario est signé de Céline Sciamma, qui a fait La naissance des pieuvres, Tomboy et Bande de filles. Ça se voit un peu. Et puis, la marge s'aperçoit également dans la durée du film. 1h06, c'est peu. Ma vie de courgette s'adresse-t-il aux enfants de punk? On pourrait le penser en écoutant la musique qui filtre au détour des séquences. Et en voici un aperçu.
Salut à toi, oh mon frère, salut à toi, peuple khmer, salut à toi, l'Algérien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, Bangladesh, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, le Tunisien, salut à toi, le
aperçu donc qui se termine par Sophie Enger qui reprend Noir Désir, et puis juste avant c'était Grauzone, donc le premier groupe de Stéphane Echer, voilà, qui fait l'objet eh bien, dans Ma vie de courgette d'une longue séquence avec les enfants qui sont en pleine boum. C'est assez étonnant et c'est super bien animé, enfin, c'est vraiment un très très bon moment, d'autant plus si on connaît la musique. Voilà, c'est Ma vie de courgette et c'est encore dans les salles.
Je me souviens pas du nom.
Cinérama.
Les hommages.
De l'autre côté de la tête, tu trouveras la place des surfeurs.
Ah, c'est gentil, merci.
Tu te fous de ma gueule?
Non, juste de ta voix.
Bon, ben voilà, vous avez compris un peu à quoi va ressembler ce Brice 3. Alors, je ne vais pas rappeler ce qui est désormais de notoriété publique, pourquoi un Brice 3 et pas un 2. Alors, ce qui est plus étonnant, c'est bien de se retrouver avec un nouveau Brice de Nice, 14 ans après le premier, comme si rien ne s'était passé, et surtout comme si Jean Dujardin avait besoin de ça. Alors, notre surfeur à la ramasse vit désormais dans une petite bicoque au bord de la mer, et il est appelé à la rescousse pour sauver son meilleur ami, toujours interprété par Clovis Cornillac. Alors, ce qui tombe bien, vu qu'il se voit expulsé de son paradis, où règne toujours son Bouddha à lui, Patrick Swayze. Alors voilà pour l'argument scénaristique quand même bien mince. Mais ce n'est pas grave, le début fonctionne plutôt bien. L'histoire étant racontée en flashback par un Brice vieux, narrant ses exploits au coin du feu devant une bande de marmots pas dupes de sa mythomanie. Alors le rythme est alerte, certains moments fort drôles et même l'emballage visuel moins hideux que le premier qui ressemblait parfois à un mauvais clip de M6. Alors James Hutt soigne davantage sa réalisation, plus proche d'un vrai film. Mais bon, ça se gâte rapidement, hein, l'absence de scénario se faisant cruellement ressentir. Et la répétition des mêmes vannes finit par laisser perplexe. Mais ce qui gêne au fond, c'est le manque de cohérence de ce film, en fait, de l'entreprise. Une comédie, même régressive, hein, se doit d'être un minimum rigoureuse. Alors il n'y a qu'à voir cette année l'excellent et stupide, il est vrai, hein, la tour de contrôle infernale d'Eric et Ramsey, bénéficiant malgré tout d'un scénario solidement écrit et d'une attention particulière au second rôle.
Mais qui a fait un bide. Hein,
et qui a fait un bide, malgré... Ouais, ouais. Mais qui a été moins survendu aussi. Hein, Brice 3, on retrouve des gobelets partout, il y a tout un côté derrière publicitaire. Exactement. Alors Brice Roy, bon, c'est un film vraiment en roue libre, hein, inutile et même hypocrite lorsqu'il tente dans une dernière partie lamentable de se lancer dans l'autocritique du personnage via une mise en abîme ridicule empêchant toute adhésion. Alors cette pseudo-distance ne fait que confirmer, à mon avis, le cynisme d'une suite aux vertus plus lucratives dans les intentions que ludiques. Alors la seule bonne nouvelle du film, c'est que j'ai eu envie de revoir Point Break.
Patrick Swayze, Patrick Swayze a été...
Et je trouve que c'est un excellent film.
Eh ben voilà, c'est déjà ça de prix pour donc ce Brice de Nice numéro 3. On rappelle, il n'y a jamais eu de numéro 2. C'est un peu le...
C'est parce qu'ils l'ont cassé.
Voilà. Ouais, ouais.
Bah, je n'ai pas voulu le dire au début parce que je pensais que tout le monde était au courant.
Tout le monde est à peu près au courant, c'est vrai. On termine avec Doctor Strange.
Voyez ce que vous pouvez nous concocter de beau dans ces 5 minutes.
Cinérama.
On va regarder ça.
Film donc Marvel. Alors selon les bruits de couloir, jamais très loin des toilettes à Hollywood, hein, pour incarner Doctor Strange, personnage de Marvel, plusieurs noms ont d'abord filtré. Alors on entendait les noms de Justin Theroux, de Joseph Gordon-Levitt, de Johnny Depp, Jared Leto, Keanu Reeves, Ryan Gosling, Gyllenhaal, Ethan Hawke, Matthew McConaughey, Oscar Isaac, Matt Mikkelsen, Tom Hardy, Joaquin Phoenix, Jack Huston et ainsi de suite, Colin Farrell. Voilà.
Donc tous les mecs de 40 balais, quoi,
voilà,
qui sont bruns et qui ont 40 ans, d'accord.
Mais finalement, eh bien, c'est Benedict Cumberbatch qui a hérité du personnage de chirurgien à l'ego démesuré, à l'esprit durement cartésien. Le médecin est forcé de s'intéresser au monde des esprits après un accident qui lui enlève l'utilisation de ses mains. Sa dernière chance, eh bien, c'est Katmandou.
Tu veux dire que j'ai dépensé mon dernier dollar pour venir ici? Un aller simple pour vous entendre me vanter les mérites de la guérison par la foi.
Vous observez le monde à travers un trou de serrure. Toute votre vie, vous avez cherché la clé de cette serrure. En voir plus, en savoir plus. Et en apprenant que vous pourriez l'ouvrir par des moyens que vous n'auriez jamais soupçonnés, vous en rejetez la possibilité.
Non, je la rejette parce qu'il se trouve que je ne crois pas aux contes de fées sur les chakras, l'énergie ou le pouvoir des croyances. Et je réfute l'existence de l'esprit. Nous sommes faits de matière et rien de plus. Vous n'êtes qu'un simple détail, une poupée éphémère au sein d'un univers indifférent.
Vous ne devriez pas vous sous-estimer.
Oh, parce que vous croyez voir en moi, ben vous avez tort. C'est moi qui vois dans votre jeu.
Alors là, j'ai coupé un son, mais en fait, le personnage principal est projeté à 10 mètres et on voit son corps astral. Et là, c'est la révélation quand même. Strange va comprendre qu'il y a quelque chose à apprendre eh bien, de ce voyage à Katmandou. Et il va apprendre très vite et se montrer très doué pour combattre la force noire qui n'a qu'un but, anéantir le vivant, voire l'univers, en tout cas la Terre. Alors, on est là dans des contrées métaphysiques tartinées de spiritualité bouddhiste, mais l'essentiel est ailleurs. Le dosage entre les scènes d'action, la dramaturgie et l'humour permet à Doctor Strange de surclasser nombre de films de super-héros. Tourné en 3D, le film nous gratifie de nombreuses scènes de perspective avec des hologrammes de feu. C'est la marque de fabrique, en fait, de toute la clique de Doctor Strange. Il dessine des choses dans l'espace et ça dessine du feu, voilà. Et puis, il y a des renversements d'immeubles qui deviennent eh bien, le tic visuel du film. Dans Inception, vous en souvenez, hein, quand la ville se renverse, c'est bluffant, parce que c'était une des premières fois qu'on le voyait mis en scène de cette manière. Eh bien ici, c'est de tous les côtés et de tous les instants, ça devient juste spectaculaire. Voilà, c'est un peu ça revient un peu trop souvent. Mais Doctor Strange est un vrai plaisir, un divertissement, et puis est plutôt appréciable en 3D, donc grâce à ses effets d'hologramme et puis eh bien, ces immeubles qui bougent parfois sans cesse. Voilà, c'est un film Marvel qui est évidemment toujours projeté dans les salles et il y a beaucoup de monde devant les écrans.
Alors méfiez-vous des apparences et contrôlez toujours qui est qui.
Qui est qui?
Il va pas contrôler qui est qui, qui est qui.
Quoi, qui est qui?
Bah quoi, qui est qui, quoi?
Eh bien, qu'y a-t-il?
Auriez-vous oublié que nous partons?
La séance est levée.
Je crois que nous n'avons plus rien à nous dire.
Inutile d'avoir des regrets, c'est trop tard.
Alors, on a tellement rien à dire que nous n'allons rien dire. On se retrouve dans une prochaine émission avec eh bien, toujours des chroniques et puis un blind test.
À la semaine prochaine.
À la semaine prochaine.